Il est l'heure de retrouver notre émission mensuelle pour la dignité. Cette émission préparée, réalisée par Régis Coulange d'Amnesty International sur les droits humains. Donc, c'est tout de suite. Bonjour Régis.
Bonjour, bonjour à tous. Voilà, alors aujourd'hui, cette émission est consacrée au rapport annuel d'Amnesty International. Comme chaque année, Amnesty International publie un rapport qui précise la situation des droits humains dans chaque pays étudié. Donc cette année, ça correspond à l'année 2022, le rapport. C'est un an d'enquête et 156 pays qui ont été analysés. Voilà, alors il y a 75 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot à Paris. Pour la première fois, le monde se dotait d'un texte de portée universelle énonçant en 30 articles les droits fondamentaux. 75 ans plus tard, en 2022, notre rapport annuel dresse une fois de plus un tableau inquiétant de l'état du monde. Le système multilatéral imaginé au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour que le monde vive en paix est-il en train de sombrer? C'est notre alerte. Alors nous allons écouter d'abord une intervention d'Agnès Callamard, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International, qui est une Française, et qui nous parle de ce rapport.
International publie aujourd'hui son rapport annuel sur les droits humains dans le monde. L'année 2022 est marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la politique de deux poids, deux mesures. La réponse robuste à cette agression contraste fortement avec l'incapacité de la communauté internationale à appliquer les droits humains de manière cohérente partout et pour tous. La réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie donne quelques preuves de ce qui peut être fait quand il y a une volonté politique. Condamnation mondiale, de multiples enquêtes sur les multiples crimes de guerre, des frontières ouvertes aux réfugiés ukrainiens. Cette réponse pourrait être un modèle pour la manière dont nous traitons toutes les violations massives des droits humains où qu'elles se produisent. Mais en 2022, nous n'avons pas vu ce modèle. La réponse robuste de l'Occident à l'invasion de l'Ukraine par la Russie contraste fortement avec l'absence d'action significative sur les violations commises par leurs alliés, notamment l'Israël, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ces deux poids, deux mesures n'étaient pas l'apanage des pays occidentaux. La Chine elle-même a utilisé des tactiques musclées pour réprimer l'action internationale contre les crimes contre l'humanité qu'elle a commis. Les institutions internationales n'ont pas réagi de manière adéquate aux conflits qui ont tué des milliers de personnes en Éthiopie, au Myanmar, au Yémen. Quant au niveau national, de nombreux États ont violé la liberté de manifester alors que les attaques contre les droits des femmes se sont multipliées des États-Unis à l'Iran, en passant par l'Afghanistan. Dans un monde aussi instable, les États ne devraient pas choisir les violations des droits humains dont ils se soucient et celles qu'ils ignorent selon que leurs intérêts soient en jeu ou non. La politique de deux poids, deux mesures sape tout le tissu des droits humains. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 75 ans, tous les États doivent s'engager en faveur d'un ordre fondé sur des règles qui s'imposent partout et à tous.
Voilà, c'était notre appel de notre secrétaire général d'Amnesty International. On va un peu détailler ce rapport que vous pouvez consulter sur le site d'amnesty.fr. Voilà, donc d'abord parlons de la guerre en Ukraine. Comment en est-on arrivé là? Le 24 février 2022, donc un chef d'État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU déclenche un conflit en Europe en commettant un crime d'agression, des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité. Ce conflit a entraîné le déplacement de millions d'Ukrainiens et Ukrainiennes fuyant les zones de guerre, une insécurité énergétique et alimentaire mondiale, et a réveillé le spectre effrayant de la guerre nucléaire. Un conflit d'une ampleur inouïe que le système international n'a réussi ni à prévenir ni à enrayer. La réaction a pourtant été rapide. Les alliés de Kiev ont immédiatement pris des sanctions économiques contre Moscou et envoyé une aide militaire à l'Ukraine. Le 2 mars 2022, le procureur de la Cour pénale internationale annonçait l'ouverture immédiate d'une enquête sur la situation en Ukraine après avoir reçu le feu vert de 39 pays partis à la CPI. Dans la foulée, l'Assemblée générale des Nations unies votait la condamnation de l'invasion russe, qualifiée d'acte d'agression. Une réponse ferme et nécessaire de la CPI qui a fortement contrasté avec les précédentes réactions, violations massives commises par la Russie et d'autres pays. Si le système avait fonctionné et demandé des comptes à la Russie pour ses crimes avérés en Tchétchénie et en Syrie, des milliers de vies auraient pu être sauvées à l'époque et aujourd'hui en Ukraine et ailleurs. De son côté, la Russie a utilisé son droit de veto pour paralyser le Conseil de sécurité des Nations unies. Elle a notamment voté contre une résolution qui exigeait que Moscou mette immédiatement fin à son attaque contre l'Ukraine et retire toutes ses troupes. La Russie a utilisé la même méthode pour s'opposer à une autre résolution qui appelait les pays membres à ne pas reconnaître la déclaration de Moscou sur l'annexion de 4 régions occupées de l'Ukraine. Cette paralysie du Conseil de sécurité des Nations unies et la mollesse des réactions du système international face aux dérives des autorités russes ces dernières années rappellent à quel point il est déterminant que l'ordre international soit fondé sur des règles appliquées de manière effective et cohérente. Les États ne doivent pas se défausser, c'est à eux que revient la responsabilité de reconstruire un ordre mondial qui fasse du respect des droits humains une priorité. Voilà, on va écouter une chanson de M. Sebi qui s'appelle « Chanson pour l'Ukraine » sur une musique de Jean-Jacques Goldman.
Regarde, l'Ukraine vit son pire cauchemar. Pourquoi tant de haine, tant de mal? Le monde n'a pas besoin de ça. C'est bien triste d'en arriver. C'est la peur et l'angoisse. Difficile de vivre sous un toit. Et le bruit intense des soldats. Oh, 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 oh. On ne peut pas laisser ça comme ça. Regarde ça, le monde est vraiment pas normal. Des gens avec trop de pouvoir. On devrait ne jamais voir ça. Pourquoi tant de haine, tant de mal? Et ça, ce n'est pas normal. Oh, oh, oh. Et ça, ce n'est pas normal.
Voilà, alors si l'agression russe a provoqué des réactions fortes de nombreux États, Ce conflit en Ukraine ne doit pas invisibiliser les victimes de toutes les autres barbaries perpétrées à travers le monde. En 2022, 20 États ont connu des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Citons par exemple le silence assourdissant sur le bilan de l'Arabie Saoudite en matière des droits humains, la passivité à l'égard de l'Égypte, ou le refus de dénoncer le système d'apartheid mis en place par Israël contre la population palestinienne. En effet, en Cisjordanie occupée, au moins 151 personnes, dont plusieurs dizaines d'enfants, ont été tués par les forces israéliennes en 2022. Cette année aura ainsi été la plus meurtrière pour les Palestiniennes et Palestiniens depuis 2006. Et les autorités israéliennes ont continué de chasser les Palestiniens de chez eux en lançant des projets d'extension drastique des colonies illégales dans toute la Cisjordanie occupée. En Chine, des centaines de milliers de personnes musulmanes sont internées, torturées et persécutées dans des camps dits de transformation par l'éducation. Ces hommes et ces femmes, ouïghours ou issus d'autres minorités musulmanes, vivent l'inimaginable. Malgré ces crimes contre l'humanité présumés, la communauté internationale reste passive. Ni l'Assemblée générale des Nations unies, ni le Conseil de sécurité, ni le Conseil des droits de l'homme n'ont condamné officiellement Pékin. Quant au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, il a voté, pour ne pas approfondir l'enquête publiée en 2022 par l'ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, ni même discuter des conclusions de l'ONU sur d'éventuels crimes contre l'humanité au Xinjiang, en Chine. Ainsi, malgré un nombre croissant d'éléments de preuve, les autorités chinoises continuent de mentir au monde sur l'existence des camps d'internement répressif au Xinjiang. En Éthiopie, l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire récente a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Campagne de nettoyage ethnique contre les Tigréens et Tigréennes, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, un conflit terrible qui s'est déroulé à huis clos. Au Myanmar, l'armée a continué de mener des opérations punitives contre les populations karen et kayak du pays. Des centaines de civils ont ainsi été tués et au moins 150 000 personnes ont été déplacées. Malgré la gravité des faits, le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas réussi à imposer un embargo complet sur les armes et des sanctions ciblées à l'encontre des dirigeants militaires du Myanmar. Au Yémen, où la guerre ne cesse de faire des victimes depuis 2015, les exportations d'armes, notamment par des entreprises françaises, continuent d'alimenter le conflit et la souffrance des Yéménites. Pourquoi ces conflits persistent-ils dans une indifférence quasi générale? Est-ce parce qu'ils sont trop loin, trop compliqués, trop risqués diplomatiquement? L'attention portée à la guerre en Ukraine et la manière dont la communauté internationale s'est mise en ordre de bataille prouvent deux choses. D'abord que les institutions internationales ont pu prendre des décisions rapides pour tenter de répondre à la crise, même si ces mécanismes montrent leurs limites. Ensuite, que toutes les crises et les conflits ne bénéficient pas de la même attention et du même traitement. C'est ce que nous disait la secrétaire générale, c'est deux poids, deux mesures. Trop souvent paralysées, gangrenées par des intérêts ou les alliances de ses membres, les institutions internationales pratiquent un deux poids, deux mesures inacceptable. Ces dysfonctionnements participent à alimenter l'impunité et l'instabilité, et ils ne font qu'enhardir les États qui bafouent les droits humains. Voilà, on va écouter Pierre Perret dans sa chanson « La bête est revenue ».
Sait-on pourquoi un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins, qu'elle a tous émerveillé en proclamant partout haut et fort, nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leurs dictats xénophobes, on chasserait tous les microbes. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson. Celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu, méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte, ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu, la bête est revenue.
Voilà une chanson ancienne qui est hélas toujours d'actualité. Alors dans le rapport annuel d'Amnesty, on parle aussi du climat, parce que pour nous, le climat, c'est un, le réchauffement climatique, c'est un péril grandissant pour les droits humains. Inondations, épisodes de sécheresse, vagues de chaleur, incendies. En 2022, le coût de la crise climatique pour les droits humains a été catastrophique. Les phénomènes météorologiques extrêmes, accentués par le réchauffement rapide de la planète, ont provoqué la famine et la maladie dans plusieurs pays d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne, tels que le Nigeria et le Pakistan, où les inondations ont eu des effets catastrophiques sur la vie et les moyens de subsistance de la population et ont provoqué des épidémies de maladies à transmission hydrique qui ont fait des centaines de morts. Pourtant, à la COP27 au Caire, en Égypte, les dirigeantes et dirigeants du monde ne sont pas parvenus à prendre les mesures nécessaires pour maintenir la hausse moyenne des températures à la surface du globe sous le seuil de 1,5 degré. Les États ont refusé de s'attaquer au premier facteur responsable du réchauffement climatique, la production et l'utilisation des carburants fossiles. De leur côté, les 6 plus grandes compagnies pétrolières du monde occidental ont enregistré en 2022 des bénéfices avant impôts records. On parle de plus de 200 milliards de dollars. Le changement climatique est l'une des plus grandes menaces pour nos droits humains. La guerre en Ukraine et ses effets sur l'approvisionnement et la tarification de l'énergie devraient inciter les dirigeants politiques à accélérer encore plus la transition juste, au lieu de se tourner vers davantage de combustibles fossiles qui menacent encore plus notre santé et notre droit à la vie. On va maintenant écouter Émilie Loiseau, qui s'était investie dans l'association Nous voulons des coquelicots, l'association écologiste qui luttait contre l'utilisation du glyphosate, dans sa chanson « Viens avec moi, mon vieux pays ».
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nous rêve. Thank you. mais la fin. Avez-vous mesuré ce jeu, qu'on joue sans avoir l'air de rien? Je me serrais encore entre mes dents la fleur rouge du printemps. Rouge est ma peau lorsque je t'aime souvent. Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le bon oreille aussi.
Voilà. Donc on voit aussi dans le rapport qui vient de sortir que de plus en plus les États s'affranchissent du droit en toute impunité. Pendant que l'ordre mondial vacille, certains États en profitent pour s'affranchir des règles du droit. Encouragés par l'impunité, obnubilés par leurs propres intérêts, ils ne font rien pour mettre nos droits fondamentaux au premier plan. Pire, il participe au recul de ses droits en les attaquant. Ainsi, 77 États ont détenu arbitrairement des défenseurs des droits humains. 94 États ont été responsables de mauvais traitements et de tortures. 34 États ont eu recours à de nouvelles disparitions forcées. La liberté d'expression a régressé pour plus de 80% de la population mondiale par rapport à 2021. De la même façon, des millions d'hommes et de femmes sont descendus dans les rues à travers le monde pour faire valoir pacifiquement leurs droits. Face à leurs revendications légitimes, les États ont trop souvent répondu par la répression et la violence. 29 États ont adopté de nouvelles lois restreignant le droit de manifester. 85 États ont eu recours illégalement à la force contre des manifestantes et manifestants pacifiques. 26 États ont restreint l'usage d'Internet pour empêcher des manifestations. 14 États utilisent la surveillance biométrique pour cibler les manifestantes et manifestants. Dans 33 États, des homicides illégaux de manifestantes et manifestants ont été commis par les forces de sécurité. En Iran, des femmes ont retiré et brûlé leur voile et demandé un changement politique majeur. En réponse à ce soulèvement sans précédent contre des décennies d'oppression, les autorités ont répondu par la violence et n'ont pas hésité à tirer à balles réelles sur les manifestantes, à utiliser des projectiles en métal, du gaz lacrymogène ou à les rouer de coups. Plusieurs centaines de personnes, dont des dizaines d'enfants, ont été tuées. Des dizaines de personnes en lien avec les manifestations ont été condamnées à mort. 4 personnes ont déjà été exécutées. En Chine, un mouvement de protestation inédit depuis des décennies a gagné le pays pour réclamer un assouplissement des mesures de confinement, la fin de la censure et, pour certains, la démission du président Xi Jinping. Ce mouvement de contestation a été sévèrement réprimé. Censure, arrestations massives, surveillance abusive, les tactiques de répression du pouvoir chinois sont malheureusement bien connues. En Russie, des voix se sont élevées contre la guerre en Ukraine. Résultat, les manifestants anti-guerre ont été arrêtés par milliers. Des arrestations éclairs et à tout va, qui n'ont qu'un seul objectif, faire taire la contestation, étouffer le mouvement anti-guerre et tenter de le rendre inexistant. Au Pérou, les manifestations qui ont suivi la destitution du président Castillo ont été violemment réprimées par les forces de sécurité, causant plusieurs dizaines de morts et plus de 1200 blessés, y compris des mineurs. Une répression particulièrement marquée envers les populations autochtones et les campesinos qui témoigne du racisme systémique qui gangrène la société péruvienne. À Hong Kong, au Chili, en Colombie ou encore en Sierra Leone, partout des hommes et des femmes ont manifesté pour revendiquer leurs droits. Partout les États ont mis en œuvre un large éventail de mesures pour réprimer ce droit fondamental. Au Sri Lanka, les autorités ont utilisé des pouvoirs d'exception pour réprimer le mouvement de protestation massif contre la crise économique. Tandis qu'en Australie, en Inde, en Indonésie, au Royaume-Uni, elles ont adopté de nouvelles lois imposant des restrictions sur les manifestations. Trop souvent, la technologie a été utilisée comme une arme contre de nombreuses personnes pour les réduire au silence, empêcher des rassemblements publics ou faire de la désinformation. De nombreux États ont fermé ou restreint l'accès à Internet, aux réseaux sociaux ou aux applications de messagerie afin d'empêcher des manifestants de se rassembler ou documenter d'éventuels abus des forces de sécurité lors des manifestations. La surveillance biométrique a également été utilisée pour cibler les manifestants. Une menace technologique qui plane aussi sur en France, alors que le projet de loi Jeux Olympiques 2024 pourrait faire de notre pays le premier État de l'Union européenne à légaliser la vidéosurveillance algorithmique. Aujourd'hui, le droit de manifester est menacé dans le monde entier. Nous alertons sur le signal fort que cette dégradation envoie, car à travers ce droit fondamental, ce sont tous nos autres droits qui sont en jeu. On va maintenant écouter Daniel Balavoine, Frappe avec ta tête.
Ah!
Femme, vie, liberté. Mon corps, mon choix. Pas une de plus. Autant de slogans que des milliers de femmes ont scandé en Iran, aux États-Unis, au Mexique, et en solidarité partout dans le monde. À chaque slogan, son combat. Révolte contre le port obligatoire du voile en Iran. Protestation contre la décision de la Cour suprême de l'annulation de l'IVG aux États-Unis. Lutte contre les violences faites aux femmes au Mexique. Mais tous ces slogans portent la même revendication du respect des droits des femmes. Résistance et résilience ont été les mots d'ordre de milliers de femmes face à des lois et des pratiques qui restreignent leurs droits. Chaque manifestation a motivé d'autres élans à l'international, inscrivant la défense des droits des femmes dans un mouvement mondial. Ainsi, en Iran, quand le 16 septembre 2022, Mahsa Amini meurt après 3 jours de coma à la suite de son arrestation, un soulèvement est lancé. Les femmes iraniennes partent à la reconquête de leurs droits et de leur liberté. Elles brûlent leur voile en public. Elles se filment sur les réseaux sociaux en train de couper leurs cheveux. Elles chantent en persan Bella Ciao, ce chant italien qui symbolise la résistance contre l'oppression partout dans le monde. Le courage des femmes iraniennes force l'admiration. Pour leurs actes de protestation, elles risquent l'emprisonnement, la torture ou la mort. Mais malgré la répression, elles résistent. Femme, vie, liberté, scandés haut et fort dans les rues iraniennes, et le cri de ralliement de la contestation de tout un peuple qui se soulève aussi contre les homicides illégaux de la répression généralisée. Des milliers d'hommes se sont joints au combat initié par les femmes. En signe de protestation, certains d'entre eux ont même porté des voiles dans les rues. 4 manifestants ont déjà été exécutés par les autorités iraniennes depuis le début du soulèvement. Le soulèvement est toujours en cours et sans précédent. Les femmes et les filles iraniennes remettent en cause tout le système d'oppression mis en place depuis la révolution islamique en 1979. Car en plus d'être contraintes par la loi sur le port obligatoire du voile, les femmes iraniennes subissent d'autres atteintes et restrictions à leur liberté à travers une série de lois répressives à leur égard. Privation d'accès à l'éducation, à l'emploi et à certains espaces publics. Elles sont considérées comme des citoyennes de seconde zone. On peut aussi parler de la résistance des femmes afghanes. Ce combat infatigable pour la liberté des Iraniennes a redonné l'espoir à d'autres femmes dans le monde, notamment les femmes afghanes. Depuis leur retour au pouvoir en août 21, les talibans ont ravagé les droits fondamentaux des femmes et des filles en Afghanistan, pays où le simple fait d'être femme expose au pire. Malgré la répression, elles aussi résistent. Le soulèvement de leurs voisines iraniennes les a fait redescendre dans la rue où elles se sont opposées aux talibans pour revendiquer leurs droits. Malgré toutes les difficultés que nous n'avons pas abandonnées, nous refusons d'accepter d'être emprisonnées dans nos maisons, nous refusons d'être discriminées, nous refusons d'être réprimées, a déclaré Waïda Amiri, l'une des membres du mouvement spontané des femmes protestataires d'Afghanistan. Femme, vie, liberté, un cri porté au-delà des frontières. Ce slogan a traversé les frontières pour être repris d'une seule voix par des milliers de personnes partout dans le monde, des États-Unis à la Turquie, en passant par la France, le Japon ou encore l'Allemagne et jusqu'en Afghanistan. Un mouvement de solidarité puissant pour dire au peuple iranien « Nous sommes à vos côtés ». La solidarité, qui s'est aussi exprimée sur les réseaux sociaux où de nombreuses personnalités, face caméra, se sont coupées des mèches de cheveux en soutien aux femmes iraniennes. Les manifestations et les actes de protestation permettent à la solidarité internationale de s'exprimer pour porter un seul et même combat par-delà les frontières. On va maintenant écouter Grand Corps Malade dans son texte « Mesdames ».
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme.
Voilà le... Le rapport annuel d'Amnesty International dresse un tableau assez sombre de la situation du monde au regard du droit. Mais il y a quand même des motifs d'espoir hein, pour reconstruire ensemble le monde de demain. Alors nous avons bien sûr parlé du courage des femmes iraniennes, femmes, vie, liberté, repris à 4 coins du monde. Jamais aussi nous n'avons autant parlé et reconnu l'existence de crimes de guerre et autant appelé à la justice. Sans doute portés par cette vague, les États membres de l'ONU ont adopté, lors de leur Assemblée générale, une résolution destinée à contrer le droit de veto détenu par les membres du Conseil de sécurité, qui était une cause majeure de la faiblesse de l'institution. Jamais nous n'avons assisté à un tel élan des pays européens pour accueillir des personnes réfugiées. Dans les jours qui ont suivi l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne a activé pour la première fois la directive sur la protection temporaire, offrant une protection immédiate aux Ukrainiens et Ukrainiennes fuyant l'agression russe. En ouvrant leurs frontières, les pays de l'UE ont prouvé qu'une autre politique d'accueil était possible, pas que pour les Ukrainiens. Jamais le monde n'a compté autant de pays abolitionnistes, désormais au nombre de 144 suite à l'abrogation de la peine de mort au Kazakhstan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2022. Jamais les mouvements de défense des droits des femmes n'ont renoncé. En Colombie, grâce à leur mobilisation, l'avortement est désormais dépénalisé. En Espagne, le Parlement a enfin adopté une loi plaçant le consentement au cœur de la définition juridique du viol. Quant à la Belgique et la Finlande, elles ont aussi entrepris de réformer les lois sur le viol et de consacrer le principe de consentement. Jamais les peuples n'ont été si prêts à se battre pour défendre leurs droits fondamentaux ou par soif de démocratie. Des gens ont montré tout au long de l'année 2022 que nous ne sommes pas impuissants. Toutes ces avancées prouvent une chose. Pour plus de justice et de liberté, c'est unis que nous pouvons remporter des victoires. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir dans quel monde nous voulons vivre. Un monde soumis à la loi du plus fort ou un monde basé sur le respect des droits de toutes et tous. Cette année marque les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document socle né des cendres d'une guerre mondiale. Un texte visionnaire qui doit servir de modèle pour un monde plus juste. Dans un monde de plus en plus instable et dangereux, les droits humains doivent servir de boussole aux dirigeants du monde entier. À défaut, ils risquent de mener le monde au bord de l'abîme. N'attendons pas que le monde s'embrase une nouvelle fois. On va écouter maintenant un chanteur suisse qu'on n'entend pas beaucoup, Michel Buller, dans sa chanson « L'espoir ».
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro d'inquiet, de voyante, extra-lucide, planté devant sa boule de cristal. Je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serais, disons, pas franchement, d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demain qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai ces bizarres, comme scellé tout au fond de moi. L'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qui illumine nos aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenin ou en Haïti, comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi quand il est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline. C'est toujours relever le front quand les autres courbent l'échine. L'espoir, c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez les crétins, ceux qui prétendent inéluctables, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table, c'est montrer son cul aux sinistres qui possèdent les continents. C'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours, de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune, debout rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir, c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie. C'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
Voilà, Michel Buller qui est donc décédé en fin d'année dernière. C'était un très grand chanteur. On va maintenant parler de notre pays, parce que dans le rapport annuel que vient de publier Amnesty, notre pays est loin d'être exemplaire en matière de respect des droits humains. Parmi les manquements que nous signalons, l'opacité des transferts d'armes de la France face au risque qu'elle puisse contribuer à la commission de violations graves du droit international humanitaire, la surpopulation dans les prisons, pour laquelle la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020, les traitements cruels, inhumains et dégradants réservés aux enfants qui restent retenus dans des camps du nord-est de la Syrie et que la France n'a toujours pas rapatriés, ce qui a fait l'objet d'une condamnation par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU le 24 février 2022. L'impunité suite au recours à la force disproportionnée des forces de l'ordre dans la gestion de manifestations ou de rassemblements ayant entraîné des blessures graves, amputations et borgnages. On pense par exemple à la famille de Zineb Redouane, décédée à la suite d'un tir de grenade lacrymogène en décembre 2018, qui n'a toujours pas obtenu justice 4 ans après les faits. C'est une dame de 80 ans qui était à sa fenêtre au 4e étage.
Au-delà des graves manquements de la France à ses obligations en matière de respect et promotion des droits humains, ce qui a marqué l'année 2022 est le renforcement de discours stigmatisants contre les personnes exilées et certaines minorités, notamment les personnes musulmanes. Ces discours stigmatisants, de plus en plus décomplexés, voire racistes, se répandent dans certains médias, sur les réseaux sociaux, et s'invitent chez les responsables politiques, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Des dérives dans les discours qui se traduisent aussi dans les pratiques. Face à la situation de personnes qui ont dû fuir la guerre ou les persécutions dans leur pays, le double discours des plus hauts responsables politiques français est flagrant. Ils s'expriment différemment selon que ces personnes viennent d'Ukraine ou d'Afghanistan. Jean-Claude Samouyer, qui est le président d'Amnesty International France, nous dit que utiliser des mots qui déshumanisent tels que flot, vague migratoire, c'est faire percevoir ces personnes comme une menace. C'est faux, c'est injuste et c'est insultant. On retrouve le double discours, par exemple, chez le ministre de l'Intérieur. D'un côté, il évoque le besoin de sécurité, de l'autre, il met en avant la tradition d'accueil de la France. En effet, le 24 août 2021, il tweetait « Avant d'arriver en France, les réfugiés afghans sont soumis à des contrôles de sécurité approfondis. Merci à l'ensemble des agents mobilisés sur le terrain. Notre vigilance est totale. » Et puis le 10 mars 2022, son discours concernant les personnes venues d'Ukraine avait une autre teinte. 7500 personnes qui fuient l'Ukraine sont déjà arrivées en France. Fidèle à sa tradition d'accueil, la France se tient prête et anticipe différents scénarios. Voilà, on va écouter maintenant Jean Ferrat qui nous parle de notre pays, ma France.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans, travaillant dans les mines. Celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France.
Voilà, alors, on va maintenant parler des activités du groupe Dinois. Donc, on a fait le festival au cinéma pour les droits humains, avec trois séances. La première, c'était le film Le Bleu du Caftan, un film magnifique, et qui a été repris pendant 15 jours et qui a connu au fur et à mesure un beau succès, parce que le bouche à oreille a fonctionné. On a fait une deuxième séance qu'on a offert au public de courts-métrages. Bon, là, honnêtement, on a trouvé qu'on avait mis un peu trop de courts-métrages. C'était un peu trop long et des sujets un peu trop différents, toujours sur les droits humains, bien sûr. Et puis, le dernier film, le Chant des Vivants, hein, Odile, tu y étais. Voilà, Le Chant des Vivants, c'était un documentaire sur l'accueil des migrants, justement, dans un village de Conques, et le fait que le chant arrive à comme une thérapie, parce que tous ces migrants sont passés par la Libye et ont vécu pire que l'enfer, ils disent, parce que, bon, l'enfer, dans l'imaginaire, on se retrouve en enfer parce qu'on a fait des choses vraiment mauvaises, etc. Alors que ils ont rien fait à part se déplacer. Et ils ont subi pire que l'enfer pour ça. Et donc le chant arrive à leur faire trouver des mots sur leurs mots et pas se réparer complètement, bien sûr, mais c'est un début, c'est une amorce pour dire que vraiment, ben, ils sont vivants. Hein. Et d'ailleurs, le film se termine comme ça, par une chanson où ils chantent tous ensemble, joyeusement, qu'ils sont vivants. Voilà, donc un très beau film, d'ailleurs, qui a obtenu des notes extraordinaires, hein, puisque on notait de 0 à 5, 5 pour le mieux, et il n'y a eu que 5-4, et tout le reste, c'était des 5. Donc c'est un film qui a énormément plu à tous, et puis qui redonne le moral. Voilà, je fais maintenant, le groupe Dinois a adopté un prisonnier d'opinion qui s'appelle Luis Manuel Otero Alcantara. C'est un artiste cubain qui se retrouve en prison pour avoir voulu manifester et pour manifester notamment contre un décret de censure qui oblige chaque artiste, écrivain, poète, etc., avant de réaliser une œuvre, d'avoir l'accord des autorités. Donc on a adopté ce prisonnier, et comme c'est un artiste, on fait un appel aux artistes dinois. Nous allons organiser à la médiathèque de Digne, entre le 2 décembre et le 12 décembre, une exposition pour lui sur le droit à la liberté d'expression et le droit de manifester ses opinions. Et donc on lance un appel aux artistes pour qu'ils réalisent une œuvre qu'ils nous prêteraient ou qu'ils nous donneraient, en faveur de ce prisonnier d'opinion, Luis Manuel Otero Alcantara. Voilà, on a déjà obtenu des promesses d'œuvres, on a obtenu aussi déjà des œuvres. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes artiste et que ça vous intéresse, que ce soit artiste amateur ou professionnel, peu importe, nous prenons toutes les œuvres de personnes de bonne volonté. Ben, contactez-moi au 06 81 34 18 83, 06 81 34 18 83, si vous voulez participer par vos œuvres, par votre œuvre, à une exposition en faveur de Luis Manuel Otero Alcantara, condamné à 5 ans de prison pour avoir manifesté. Et puis, enfin, je vous donne les dates de notre foire au livre de printemps. Ce sera le vendredi 12 mai de 9h à 18h, salle de l'Atrium, à Digne-les-Bains. Et le samedi 13 mai de 9h à 13h. Voilà, nous vendons là de nombreux livres qu'on nous donne tout au long de l'année au profit d'Amnesty International, qui est une association mondiale de défense des droits humains qui ne demande et ne reçoit aucune subvention d'aucun État, puisque justement on les interpelle. Donc, pour pouvoir vivre, continuer à mener nos enquêtes, nous avons besoin d'argent. Et c'est ainsi que nous organisons cette foire de printemps, foire aux livres de printemps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on va finir en chanson avec Zaz de Couleur Vive.
Tous ces bruits de couloir qui disent noir ou blanc, alors c'est le nom ou la peau qui déciderait du rang. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre, la seule crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire, libre. Ah la 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 la. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Il y a parfois des jours où le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux. De n'être que témoin de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nous. Je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent pour que ça change tout. Moi je veux. Ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire, libre. Ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. De couleur vive. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Moi je les laisse autant. Ces histoires de peau, je me garde, c'est vrai, de monter au créneau. Alors je chante un peu, chacun fait de son mieux. Moi je veux vivre, rire, libre. Ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire, libre. Ah da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça.